Les présidents africains tournent le dos à Zelensky. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était adressé à l'Union africaine par visioconférence, une réunion tenue finalement à huis clos, d'où seuls quelques éléments auraient filtré. Sous la pression d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a tenté de rassembler autant de chefs d'État de continent donc que possible pour une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Finalement, seuls deux présidents étaient intéressés par ce que l'ex-comédien avait à dire à l'Afrique. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ainsi que Macky Sall et son homologue du Congo, Denis Sassou Nguesso, ont été donc les seuls à s'intéresser à la réunion qui s'est tenue ce lundi 20 juin. Pour l'Union africaine, organiser la réunion donc avec Zelensky était une manière de mettre en avant la neutralité de l'organisation panafricaine vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. En effet, avant et après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou, le président sénégalais Macky Sall a été exhorté par ses homologues occidentaux à faire le déplacement à Kiev afin de voir Zelensky également. Au final, Macky Sall a simplement promis d'organiser un sommet de haut niveau avec les chefs d'État africains qui souhaitent parler avec le président ukrainien. Un sommet de haut niveau, certes, mais qui ne vole pas très haut. Chose promise, chose due, la rencontre de ce lundi a réuni Macky Sall, Denis Sassou Nguesso et Volodymyr Zelensky. Et puis c'est tout. Sur l'interface de l'appel, on voit également la régie et depuis les locaux de l'Union africaine à Addis Abeba, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Quelques ambassadeurs et ministres représentant l'Algérie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Nigeria et l'Égypte, notamment, ont aussi écouté Volodymyr Zelensky ainsi que le chef du conseil présidentiel libyen. La symbolique est accablante, les autres présidents africains ont simplement boycotté le président ukrainien. De plus, l'Union africaine a décidé de tenir la réunion à huis clos à la dernière minute, un détail qui a suscité l'agacement des médias occidentaux qui estiment que les chefs d'État africains voudraient éviter que le franc-parler de Zelensky n'alimente pas les titres de presse selon certains éditorialistes du média néocolonialiste France 24. Deux premières déclarations ont émané donc de la rencontre. D'abord, le chef de l'État sénégalais et le président de l'Union africaine, Macky Sall, a remercié Zelensky pour son adresse conviviale à la réunion virtuelle du Bureau élargi de l'Union africaine. L'Afrique reste attachée au respect des règles du droit international, à la résolution pacifique des conflits et à la liberté du commerce, comme l'affirme Macky Sall. L'Union africaine garde donc la même position avec la priorité pour le retour des exports de céréales et d'engrais russes et ukrainien. Un enjeu d'urgence pour une majorité des pays africains. Et de son côté, Zelensky a déclaré que l'Afrique est en réalité un otage. C'est un otage de ceux qui ont déclenché la guerre contre notre État. Le président ukrainien a réitéré ses accusations pour la Russie, qui bloquerait selon lui les exports de céréales ukrainiens. Mais quelle relation entre l'Ukraine de Volodymyr Zelensky et l'Afrique? Quoi qu'il en soit, cette réunion entre l'Union africaine et Zelensky n'est pas dénuée de contexte. Depuis son entrée en fonction en 2019, la diplomatie entre l'Ukraine et les pays africains a subi un recul en raison de la réduction radicale des droits des étudiants étrangers en Ukraine. La volonté de Zelensky d'intégrer l'OTAN par la suite a créé un dilemme pour les pays africains les plus proches de la Russie. En l'occurrence, l'Algérie, l'Angola, l'Afrique du Sud et aussi la Guinée équatoriale. Mais c'est surtout depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie que de plus en plus de diplomates africains condamnent le deux poids, deux mesures du traitement des ressortissants africains. Zelensky avait déclaré en février que tous les étudiants africains qui quitteront l'Ukraine n'y seront plus les bienvenus une fois la guerre sera finie. Sans compter évidemment le scandale des couloirs humanitaires, les Africains ayant fui donc la guerre se sont heurtés au refus de l'Union européenne de les accueillir au même titre que les réfugiés ukrainiens. Ensuite, fin février dernier, donc l'ambassade ukrainienne au Sénégal et aussi en Algérie avait enrôlé plusieurs dizaines de Sénégalais pour combattre en Ukraine. Un appel décrié par le ministère sénégalais des Affaires étrangères qui condamnait cette pratique qui constitue une violation de l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. Alors si Zelensky vient aujourd'hui quémander un plus large soutien africain, il semble négliger que l'émotion à géométrie variable que provoque son cas dans les médias occidentaux ne signifie presque rien aux Africains. Mais aussi, ses déclarations contre la Russie sont également ternes aux yeux de l'Union africaine. Et peut-être, en acceptant de relancer le commerce de céréales avec les pays africains depuis ses ports, Zelensky pourra peut-être s'acheter un peu de bonne volonté auprès des diplomaties africaines. Mais quoi qu'il en soit, c'est peine perdue. Au Mali, suite à l'attaque terroriste qui a fait 132 morts parmi les civils, respectivement à Dialassagou, Dianouéli et Degassagou, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, après avoir condamné l'acte, a décrété un deuil national de 3 jours à partir de mardi 21 juin. La commission de la CEDEAO a également fait un communiqué pour manifester sa compassion auprès du peuple et du gouvernement de la transition. Ces 3 localités situées dans le cercle de Bankas, région de Bandiagara, ont vécu un véritable cauchemar dans la nuit du 18 au 19 juin. Des hommes armés appartenant au groupe terroriste ont tué plus de 132 personnes, tous des civils, incendié des habitations et emporté beaucoup d'autres biens matériels après leur forfait. Pour donc manifester la tristesse de tout le peuple malien suite à cette tragédie humaine, le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce mardi et en effet, les drapeaux seront en berne sur tous les bâtiments et édifices publics sur toute l'étendue du territoire national pendant toute la durée du deuil. La commission de l'organisation régionale, notamment la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a également fait un communiqué pour condamner le crime odieux et manifester son soutien au gouvernement de transition dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Au fur et à mesure que les troupes d'occupation françaises se retirent du Mali, les attaques terroristes s'intensifient. D'ailleurs, suite à ce massacre, la France, qui elle-même se trouve être à l'origine du renforcement des groupes terroristes dans le Sahel et particulièrement dans le Mali, a également présenté ses condoléances aux familles des victimes et au peuple malien, tout en passant son petit message sournois, se disant gravement préoccupé par la dégradation de la sécurité et humanitaire au Mali, qui se traduit par une intensification des attaques contre les populations civiles ces derniers mois. Vu la multiplication des attaques terroristes et au fur et à mesure que les troupes d'occupation françaises se retirent du Mali, il serait temps d'élargir le cercle des partenaires internationaux. Outre la Russie, qui se trouve être majoritairement occupée par le conflit en Ukraine, il est clair qu'un élargissement ne serait pas de trop. Des pays amis sont prêts pourtant à aider le Mali dans sa lutte contre l'impérialisme occidental, une lutte qui touche une très grande partie du monde entier d'ailleurs. Suite au massacre des 132 civils, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé sa sympathie au gouvernement et au peuple malien suite à l'attaque terroriste qui a entraîné la mort de certains civils. Saïd Khatibzadeh a exprimé ses regrets pour le meurtre de dizaines de civils maliens lors de l'attaque terroriste survenue au Mali et a également fermement condamné tout acte terroriste sympathisant avec le gouvernement, le peuple et les familles des victimes. L'Iran est toujours présent auprès des pays qui défendent bec et ongle leur souveraineté et leur intégrité territoriale. Et quoi qu'il en soit, le gouvernement malien suit la voie que lui trace la population malienne et aucune autre voie. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est ont approuvé ce lundi le déploiement imminent de la force militaire régionale dans l'Est de la République démocratique du Congo où des dizaines de groupes armés s'affrontent aux forces gouvernementales depuis des décennies maintenant. Placée sous commandement militaire du Kenya, cette force devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines et ne devrait pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise, a indiqué la présidence congolaise dans un communiqué. Le communiqué indique que les chefs d'État ont ordonné un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des positions récemment prises notamment par les rebelles du M23 depuis une semaine. Les chefs d'État ont indiqué que la force régionale devrait, en coopération avec l'armée et les forces administratives de RDC, cherchait à stabiliser et assurer la paix en RDC, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Les chefs d'État ont demandé qu'un cessez-le-feu immédiat soit appliqué et que la cessation des hostilités débute immédiatement, a poursuivi la présidence kényane. La RDC, riche en minerais, est en proie à des dizaines de groupes armés dans l'Est, généralement financés et formés par les Occidentaux. Un regain de tension dans l'Est ces dernières semaines a ravivé l'animosité entre la RDC et le Rwanda, longtemps considéré comme étant le cheval de Troie de l'Occident en Afrique. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ce groupe armé, ce que Kigali dément. Le M23 avait été vaincu en 2013, mais a repris les armes fin 2021 en reprochant aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ces éléments. Les affrontements entre le M23 et l'armée congolaise ont entraîné la fuite de milliers d'habitants vers l'Ouganda voisin. Le communiqué kényan n'a pas précisé si le Rwanda allait jouer un rôle dans la force régionale, alors que Kinshasa a déjà dit ne pas accepter sa présence. Placée sous commandement militaire du Kenya, cette force devrait être opérationnelle dans les prochaines semaines et ne devrait pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise, a de son côté affirmé la présidence de la RDC sur Twitter. Le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame assistaient à la réunion lundi aux côtés du président kényan Uhuru Kenyatta ainsi que des dirigeants du Burundi, du Soudan du Sud, de l'Ouganda et l'ambassadeur de Tanzanie à Nairobi. Le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamad a salué l'issue de la réunion à Nairobi dans un communiqué posté sur Twitter également. J'appelle à l'application immédiate de leurs décisions afin de restaurer la paix dans l'est de la RDC, a-t-il ajouté. Les problèmes affectant la région, comme la crise au Congo, nécessitent une approche collective de la part de tous les membres régionaux de la communauté d'Afrique de l'Est, a écrit le président ougandais Yoweri Museveni pendant la réunion. Nous devons insister pour travailler ensemble parce que ces gens ont beaucoup souffert, a-t-il ajouté. Le gouvernement de Museveni a envoyé des troupes pour aider les forces congolaises à combattre les rebelles du groupe Force démocratique alliée, accusés d'être responsables de massacres de milliers de civils dans l'Est congolais et d'avoir également commis des attentats en Ouganda. Ce groupe d'origine ougandaise a été placé en mars dernier par les États-Unis parmi les groupes terroristes affiliés aux terroristes de Daesh. Après la prise d'un poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda, Bunagana, par le M23 la semaine dernière, le président kényan avait appelé au déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC. Le M23 a annoncé lundi la réouverture de ce poste frontalier dont il s'était emparé le 13 juin. Une alliance qui ne fait pas nécessairement des heureux au sein de la communauté occidentale. La suite reste à suivre.
Des rencontres dans l'attaque terroriste au Mali. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé la profonde sympathie et les sincères condoléances de la République islamique d'Iran au peuple et au gouvernement malien, ainsi qu'aux familles des victimes de l'attaque terroriste qui a entraîné la mort de nombreux civils samedi 17 juin. Saïd Khatibzadeh a exprimé ses regrets suite aux meurtres de dizaines de civils maliens lors de l'attaque terroriste du samedi 17 juin. Condamnant fermement tout acte terroriste perpétré par n'importe qui, n'importe où sur la planète. Les mouvements politico-militaires et alliés, MPMA, qui prennent part aux négociations qui ont débuté en mars dernier à Doha, au Qatar, ont dénoncé dans un communiqué samedi, 18 juin, des manœuvres du gouvernement tchadien et ont menacé de se retirer des pourparlers. Dans leur communiqué, ils ont souligné la complicité d'agents provocateurs infiltrés visant à perturber les négociations par des actions de harcèlement et d'intimidation, des provocations et tentatives d'agression en vue de créer des incidents physiques. Les mouvements politico-militaires ont aussi dénoncé les calomnies, les achats de conscience et tentatives de corruption qui ont fini par instaurer un climat délétère impropre à la poursuite des négociations dans la sérénité et à troubler la quiétude des médiateurs. Ils ont accusé le gouvernement de transition du Tchad de vouloir faire durer les négociations de Doha avec des perturbations et manipulations qui impactent négativement le déroulement des négociations. Ainsi, les groupes politico-militaires se réservent le droit de suspendre leur participation au pourparlers si le gouvernement ne met pas fin à ces agissements provocateurs. Pour rappel, les négociations de Doha ont été ouvertes le 13 mars dernier avec une cinquantaine de groupes armés. Elles ont pour objectif de se déboucher d'un dialogue national inclusif avec toutes les forces vives pour obtenir, à la fin, une nouvelle constitution et des élections et le retour du pouvoir aux civils. Depuis mars, les négociations de Doha piétinent et le dialogue national inclusif prévu pour mai dernier a été reporté à une date ultérieure. Le groupe consultatif pour le financement du plan national de développement de la Côte d'Ivoire en 2021-2025, qui s'est réuni à Abidjan mercredi dernier, a réuni des promesses d'investissement et de financement d'un montant de 15,7 milliards de francs CFA pour son plan 2021-2025. Au-delà des espérances, la Côte d'Ivoire estimait ses besoins de financement en investissement public à 9 336 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 15,5 milliards de dollars sur la période 2021-2025 à mobiliser auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux de développement. Mais ces derniers se sont engagés au final sur 26,18 milliards de dollars lors de la réunion du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement de la Côte d'Ivoire en 2021-2025 à Abidjan mi-juin. Voilà pour le volet public du plan. Abidjan doit aussi attirer 3 fois plus du secteur privé pour boucler son programme. Ce plan a pour objectif de hisser la Côte d'Ivoire, l'une des principales économies de l'Afrique de l'Ouest, aux nombreux atouts naturels et humains, au rang de pays à revenus intermédiaires supérieurs à l'horizon 2030 via un taux de croissance moyen de 7,3% par an. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a présidé le jeudi 16 juin le Conseil des ministres délocalisé à Kindia, dans la première région militaire du pays, précisément au camp Samoreya, qui abrite le bataillon Guingan. Le chef de la junte militaire a appelé ses frères d'armes à défendre le Mali comme la Guinée. « Nous avons des frères qui sont à Kidal. Certains parmi vous ont déjà été et d'autres vont y aller pour les relever. Il faut toujours se battre pour le Mali comme vous le faites pour notre pays, la Guinée. Restez soudés et restez ensemble. » Parce que seule l'équipe gagne. Quand chacun prend son chemin, vous allez vous perdre. Mais quand vous suivez le même chemin, même s'il y a des arbres ou des montagnes sur votre chemin, vous pouvez les défricher et avancer. J'ai fait 4 ans ici. Nous sommes en train de travailler pour améliorer les conditions de vie des soldats. Nous avons tous choisi ce métier des armes, un métier de donner sa vie pour le pays. C'est une mission noble, a-t-il lancé. Le président du Conseil national du Rassemblement pour le développement, CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, s'est également adressé au préfet et au sous-préfet de la région administrative de Kindia. L'État est non négociable. Faites les choses dans la règle de l'art. Soyez juste avec tout le monde et surtout avec les administrés. Les préfets et les sous-préfets que vous êtes, je vous invite à l'engagement et à être au service de l'État. Servir et non s'en servir, tout en restant au service des populations. La Cour de répression des infractions économiques et financières ne s'arrête pas seulement qu'à Conakry, a-t-il prévenu.